Le débat africain. Alain Foucault.
Dolé viande crevette et son miondo. Agouti sauce graine et son acheke. Tchiboudienne rouge dans son poisson. Tigadigena de mouton avec son fognon. Guaguasu marchoiron fumé, foutou banane. Makayabu chikwanga. Des noms qui tout de suite font saliver les Africains. Malheureusement, ils sont les seuls puisqu'ils n'évoquent rien au-delà du sud du Sahara. Comment expliquer qu'avec une telle diversité, une telle richesse, qu'avec autant de saveurs, la cuisine africaine a autant de mal à s'exporter et même à émerger sur le continent? Qu'est-ce qui fait qu'elle reste aussi intime et marginale? Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Louis au Sénégal où nous nous retrouvons ce dimanche en marge du forum de Saint-Louis pour parler de la cuisine africaine. Avec plusieurs chefs, plusieurs grands noms ambassadeurs de la cuisine africaine. Des chefs qui voyagent et qui essaient de faire connaître toutes les senteurs et saveurs de ce continent. D'abord, Coco Reinhardt, chef cuisinier et patron d'entreprise installé à Johannesburg en Afrique du Sud. Coco propose ses services dans de nombreux pays et dans un bon nombre de rencontres et cérémonies prestigieuses. Pierre Thiam, notre second invité, est chef lui aussi, mais il est installé à New York, aux États-Unis. Il a un parcours atypique puisqu'il était parti étudier la physique chimie et il se retrouve aujourd'hui dans la restauration, travaillant dans la valorisation des produits africains. Notre troisième invité de ce plateau est une grande chef à Saint-Louis, avec une table, une adresse incontournable, le matin notamment. Marie-Caroline Camara, la patronne de la maison et table d'hôte au fil du fleuve. Il faut préciser également que Marie-Caroline a été pendant un certain temps la présidente de l'Office du tourisme de Saint-Louis. Une autre chef est femme de caractère, défenseuse de charme des produits africains, Fatine Niang. Elle a été à l'origine du premier food truck, c'est-à-dire les camions où on peut vendre à manger, à proposer des saveurs africaines en région parisienne. Black Spoon était donc le premier food truck avec des produits africains dans toute l'Europe. Fatine Niang, qui investit désormais au Sénégal, a décroché de nombreuses distinctions, dont celle de meilleur entrepreneur africain féminin 2014 en France, catégorie African L. Elle est la patronne du concept Nomadia de la graine à l'assiette. Dieuveil Malonga, notre cinquième invité, représente un peu la nouvelle génération des chefs africains totalement décomplexés, avec une démarche plus ouverte qui mélange subtilement tradition et modernité. Il se veut le pont entre saveurs d'Afrique et cuisine du monde, en gardant bien sûr l'héritage du terroir. Il officie en Allemagne où il s'est installé, et dans plusieurs pays européens, et même en Afrique, mais toujours bien loin du Congo de ses parents qui lui ont tout transmis. Loïc Dablé s'inscrit également dans cette vague de jeunes chefs qui promeuvent une vision contemporaine de la gastronomie africaine dans le monde. Son lieu d'expression est son restaurant Daper, au cœur de Paris. Voilà pour notre plateau qui me fait déjà penser à toutes ces spécialités africaines. J'ai déjà faim. Olivier aussi.
Ça donne faim tout
ça. Ça donne faim, tigadigena de mouton, tchiboudienne, etc. C'est des noms qui reviennent à la mode. Mais est-ce que vous savez qu'avant, on ne servait pas un seul de ces plats dans les restaurants africains? Fatih, tu étais au courant?
Je ne savais pas qu'on ne les servait pas, mais je sais que les modes de consommation ont changé depuis plusieurs années, notamment au Sénégal, et le riz est introduit plus tard en fait.
Oui, mais est-ce que dans la plupart de vos pays, vous viviez ça? Je sais qu'il était de bon ton dans les grands restaurants d'avoir les noms qui sonnent le plus étranger, le plus français possible. C'est vrai ou pas, Pierre?
Absolument.
Tout à fait.
C'est toujours une réalité. Beaucoup de capitales africaines.
C'est toujours une réalité?
Absolument, oui. Ça change petit à petit, mais c'est toujours une réalité.
Malheureusement.
Pas, et pas assez vite. Si vous prenez une grande ville comme Johannesburg, aujourd'hui, il n'y a pas un seul restaurant africain.
Ah oui?
Où on a ce que moi j'appelle des Disneyland type de restaurant, ou bien on vous amène dans un petit
maquis
ou quelque chose comme ça, mais il y a rien malheureusement qui est digne de ce nom.
Qui promeut les mets africains,
exact,
les produits africains,
exact,
les produits du
exact.
Terroir.
Yeah. C'est ça. Tout à fait.
Donc vous êtes un peu les pionniers en gros. Marie Camara voulait dire quelque chose.
Oui, parce que je trouve par exemple qu'au Sénégal, le Sénégal est connu à travers un plat qui est le tchiboudienne, les riz au poisson. Mais on est un peu paresseux finalement parce qu'on fait connaître que celui-là, un petit peu le mafé de nos voisins maliens. Mais la cuisine sénégalaise est extrêmement variée, avec des produits très variés. Là, on est à Saint-Louis, j'ai envie de dire par exemple les graines de nénuphar.
Moi-même, je ne connaissais pas les graines de nénuphar.
C'est promotion. Je crois que c'est à nous aussi de faire ces efforts.
De faire cet effort-là. Mais il y a quand même un changement. Là, autour de cette table, il y a des chefs. Donc, comment vous perçoit aujourd'hui? Coco,
on est devenu un peu les ambassadeurs de cette cuisine-là, et c'est une position qu'on doit arracher, qu'on doit imposer aux gens. Il n'y a personne qui va nous nommer ambassadeur. Nous, on se nomme.
Vous vous êtes nommé ambassadeur de fait.
Oui,
quoi,
parce que
par votre action.
Comme il n'y a rien qui se passe, on se dit non, c'est nous qui devons prendre cette initiative-là et cette place-là.
Mais comment expliquer que d'un coup comme ça, les Africains découvrent, parce qu'on voit quand même ces restaurants que vous faites, et même ceux qui sont un peu moins huppés, fréquentés par les Africains, par les intellectuels africains qui allaient plutôt manger des plats très 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 européens. Comment expliquer ce changement?
Alors, avant, en fait, il y avait une vague. Je me rappelle quand on était jeunes, c'était la cuisine française. Mm-hmm. Après, quand on commençait à grandir, 14 ans, 15 ans, il y avait la vague de la cuisine asiatique. Mm-hmm. Et aujourd'hui, les gens se demandent, OK, mais l'Afrique, c'est quand? Mm-hmm. Et là, les gens se réveillent. Moi, je suis plutôt en Afrique anglophone, par exemple, au Kenya, au Rwanda. Mm-hmm. Et au fur et à mesure, il y a un an, on commence à trouver vraiment des restaurants. Par exemple, le restaurant de qui font la spécialité camerounaise, mm-hmm. soit la spécialité.
Mais très souvent, ça reste entre nous, quoi. C'est-à-dire,
non, je crois que c'est la communication, mais ça commence à changer au fur et à mesure par rapport aux réseaux sociaux ou bien à la communication numérique qu'on a aujourd'hui.
Louis Dabé,
j'ai quand même l'impression qu'il y a c'est culturel. C'est-à-dire que je vois, par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé du guaguassou. Le guaguassou, quand vous mettez ça sur une carte en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens disent
que c'est un peu dur.
C'est un peu dur. Alors que non.
Foutou à midi quand même.
Il faut le manger.
Que ça fait dormir.
Il faut le manger. Il faut le mettre en valeur pour pas qu'il soit trop lourd.
Ah, c'est-à-dire le retravailler.
Le retravailler.
Exact. Parce que quand vous dites c'est pas trop lourd, c'est la façon de manger. Ok. La façon de manger des Africains doit évoluer comme dans le monde.
On mange beaucoup, quoi. On mange gros, quoi.
Oui. Non, mais le problème qu'il y a, c'est que maintenant, on mange plus trois fois. On n'a plus trois repas. Petit déjeuner, midi et le soir. Maintenant, on doit, dans la vie moderne, étaler 5 repas sur la journée.
Ah, carrément.
Donc, on peut pas manger du guaguassou 5 fois, ou bien la chifouang 5 fois la journée. À un certain moment, il faut quand même essayer de balancer.
Fatih.
Bah, écoutez, moi, j'ai découvert vraiment cet univers en 2013. C'était quand il y a eu l'événement Afro Eats à Dakar, où tous les chefs, en fait, du monde étaient réunis. Et là, vraiment, j'ai compris qu'il se passait quelque chose, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé réellement en 2013?
Il y avait eu, avec Pierre Thiam d'ailleurs, tous les chefs de différents continents, que ce soit aux États-Unis, en Italie, en France, etc., qui étaient réunis pour promouvoir, en fait, les produits locaux, avec des artisans locaux. Et le ministre voulait vraiment qu'on travaille sur les produits locaux. Donc, moi, j'ai lancé Black Spoon derrière.
Black Spoon. Il faut dire que ton parcours est quand même assez particulier, puisque tu fais un food truck à Paris.
Tout à fait.
Qui fait le tour, un camion dans lequel on a.
C'est ça.
On a de la cuisine africaine.
Africaine.
Comment c'est perçu au départ?
Très bien perçu. C'est vraiment.
Avec les senteurs, avec les.
En fait, nous, on a apporté le côté marketing, communication, le côté moderne. On voulait un peu changer, gommer, comme tu disais tout à l'heure, donner une meilleure publicité de la cuisine africaine. Donc, avec les chefs, il y a tout un travail de modernisation, de création, de consommer différemment.
Qui est souvent difficilement perçu par les gens. C'est-à-dire, quand on dit le chef, il dit, ça ne ressemble pas au plat de ma grand-mère.
Tout à fait.
C'est pas le même foutou. Marie Camarade, c'est vrai ou pas?
Oui, ah ben ça, je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'à la fois, il faut réinventer des choses, les rendre plus légères, mais aussi ne pas perdre ses bases. Et on a, pendant un moment, je crois, perdu nos bases culinaires pour plein de raisons qu'on retrouve aujourd'hui avec la confiance en soi, l'amour du terroir, plein de choses. Mais dans la cuisine sénégalaise, il y a des plats qui étaient extrêmement équilibrés, comme un bon tiboudienne blanc, il n'est pas très gras, il y a une bonne proportion de légumes, il y a vraiment des saveurs très fines. Et puis on a vu apparaître l'utilisation de l'huile massivement, qui a changé le goût. On a vu rajouter des ingrédients pour faire plus riche, parce qu'on est en développement. Alors on
voulait montrer qu'on a les moyens.
Alors du coup, le bon tiebouillap, un bon riz à la viande, qui avait ce goût de viande dans lequel éventuellement on rajoutait quelques olives, maintenant on est capable d'y mettre des petits pois en boîte. Voilà. Donc c'est à nous, c'est intéressant.
J'ai entendu quelqu'un dire le tiebouillap android.
Voilà, c'est une autre. Voilà. Parce qu'on peut partir. Il y a des fruits aussi extraordinaires. Je pense au mad, qui est un petit fruit les gens traditionnellement mangent avec un petit peu de piment, de sucre ou de sel. Mmh. Et c'est vrai que là, on voit des jeunes mettre de la mayonnaise, du ketchup dedans. Donc il faut aussi qu'on veille à redonner cette envie de la recherche de saveurs et pas simplement dire on a les moyens, alors on met beaucoup de choses.
On met beaucoup de choses qui viennent d'Europe.
Mmh. Si je peux juste focaliser sur quelque chose, c'est le développement de la cuisine africaine, de notre gastronomie, d'ailleurs comme de notre vie en Afrique, okay, ne se passera pas sans revisiter ça.
Mm-hmm.
Donc on est obligé, okay, d'avoir une cuisine qui est...
qui a une base africaine.
Et ça, il ne faut surtout pas enlever ça.
Oui. Okay,
mais on va dire, pas que le marketing, ça doit être le packaging.
Ouais,
je cherche le mot en français. Je ne le trouverai pas.
Voilà,
c'est ça. Donc, c'est ça. Maintenant, on ne mange plus... Les gens ne vont plus au restaurant juste parce qu'ils ont faim.
Ça doit être une expérience. Ils vont se faire plaisir.
Mmh. Ça doit se faire plaisir. Mmh. Mais on doit se dire, oui, ok, ça c'est le tchèp que j'ai mangé quand j'étais petit et tout ça, mais qu'est-ce que c'est beau.
Mmh.
Ça me donne envie. On doit créer cette envie-là. Et on est arrivé à un point où on n'a plus peur de montrer ce qu'on fait. Ok, on est très fier de soi, comme vous disiez avant. Et c'est ça qui, cette façon de montrer que c'est beau, c'est sur ça qu'on doit se focaliser.
Puisqu'on plante un peu le décor, aujourd'hui, est-ce que dans les différentes villes où vous allez, vous constatez vraiment l'engouement des Africains pour cette nouvelle cuisine?
Bien sûr,
Pierre qui est à New York, est-ce qu'on voit apparaître des restaurants un peu partout là,
oui,
en dehors de Harlem?
Absolument, ça vient de plus en plus, ça va devenir un phénomène parce que la cuisine c'est totalement autre chose aujourd'hui, c'est à cause des médias, grâce à vous et les chefs en particulier, pas seulement les chefs africains mais les chefs en général cherchent de nouvelles influences. Et nous sommes la dernière frontière. La cuisine africaine est la dernière frontière en ce moment. Et donc, il y a cet intérêt-là. Par exemple, quand tu parles de Afro-Eats qu'on a organisé avec Fatou Moub, d'ailleurs, qui est derrière nous, qu'on a organisé Afro-Eats, vraiment, les chefs étaient emballés, quoi. N'avaient jamais pensé venir en Afrique découvrir des saveurs africaines. Et ces chefs-là, c'est des gens qui influencent toute une opinion. Et donc, quand ils sont revenus, certains sont revenus à New York. Il y avait, par exemple, Annie Talo, qui est une chef extraordinaire, étoilée, qui a mis des épices comme le garlic dans son menu. Et donc, elle a exposé ça à des gens qu'il connaissait pas du tout. Donc, c'est des épices qu'on trouve qu'au Sénégal et en Guinée, dans la zone au Nigeria un tout petit peu. Mais maintenant, ça a été exposé dans un restaurant étoilé de New York. Et ces gens-là, ils commencent à se demander, mais ces saveurs-là, on les a jamais connues.
C'est quelqu'un qui est parti de chez lui pour faire de la physique chimie aux États-Unis d'Amérique, qui se retrouve chef dans la cuisine africaine surtout, parce qu'on s'attend à ce qu'ils se disent, bon, on va travailler une autre cuisine. Quelle est la spécificité de cette cuisine africaine? Parce qu'on parle beaucoup de cuisine africaine, mais est-ce qu'il existe une cuisine africaine?
Pas plus qu'il n'existe une cuisine européenne.
Voilà,
il y a des cuisines africaines.
Il y a des cuisines africaines, voilà. Comme il y a des Afriques. Okay. Qu'est-ce qui singularise notre cuisine, grosso modo?
Moi, je pense que c'est la générosité.
Coco.
Ça, c'est un, la générosité, ok? Et cet amour du partage. En Afrique, on n'est pas habitué à manger seul.
Ça, c'est clair.
Ça, j'ai jamais vu ça.
Ça, c'est clair.
Donc, c'est pour ça que on a toujours des grands plats qui arrivent. Et tout. Mais ça, on ne peut plus.
On peut plus le faire.
On ne vit plus dans ce monde-là. On doit penser restaurant.
Ici au Sénégal, encore dans pas mal de familles, le dimanche, ça se fait, non?
J'exagère
ou pas?
Ça se fait.
Ça se fait.
Ça, c'est en famille. Et c'est pas là où doit se développer la gastronomie. C'est au restaurant. Il faut penser business. Comment est-ce qu'on peut vendre ça?
Ce que j'aimerais ajouter aussi, en fait, la cuisine africaine, par exemple, là, je vais parler du Cameroun, parce que j'étais au Cameroun il n'y a pas très longtemps. En fait, derrière chaque plat est toujours une histoire. Mm-hmm. Et ce qui est bien, on a plus d'émotions.
Il faut connaître l'histoire, en gros.
Exactement.
Voilà. Il faut connaître l'histoire de chacun des plats.
Exactement.
Et puis l'origine, parce que quelquefois, on vous dit qu'il y a des plats qui sont des plats en même temps homéopathiques.
Mais beaucoup.
Beaucoup de
homéopathiques. La façon de manger.
Par exemple, chez moi au Cameroun, on parle du Mbongo Chobi, qui est un plat de la forêt, avec une vertu pas aphrodisiaque. Je regarde Coco qui me regarde un peu.
Mais même l'oncui aussi, l'oncui.
L'oncui dans l'ouest du Cameroun aussi, oui. Tout à fait, avec une vingtaine de condiments.
Exactement.
Une vingtaine de condiments de la forêt.
Qui sont d'ailleurs?
Moi, je connais quelques-uns.
J'ai deux propriétaires de restaurants, mais je ne suis pas cuisinier. Marie Camara.
On voit combien le rôle des chefs est important. Partout, c'est comme ça que la gastronomie. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie les produits, parce que c'est les produits aussi qui font partie de tous ces produits tropicaux où là. forcément, moi, à Saint-Louis, je pense aux produits du Sahel. Donc, même dans une région pauvre comme le Sahel, il y a des quantités de petites graines et de petits nutriments qui sont extrêmement intéressants. Donc, c'est à nous aussi de faire que les gens puissent continuer à les récolter et à les produire. Parce qu'aujourd'hui, on voit que sur nos marchés, il y a beaucoup, beaucoup de fruits et légumes d'importation et qu'il faut absolument motiver nos maraîchers à produire.
Absolument.
Mais pour produire, il faut qu'ils aient un débouché, qu'il faut qu'il y ait des restaurants. Et il faut ne pas oublier cette... C'est toute une filière, en fait.
Exact. Et ça, c'est vraiment le plus difficile parce qu'en Afrique, on n'a pas de relation commerciale avec les autres pays. Moi, il m'est arrivé une fois de devoir importer de la banane plantain de Londres pour la cuisiner à Johannesburg. Parce qu'à Johannesburg, je ne la retrouvais pas.
Est-ce que vous ne posez pas là le réel problème de la cuisine africaine? Je voulais qu'on en parle, mais je souhaitais qu'on en parle dans la deuxième partie. Mais puisque vous nous lancez dessus, est-ce que le vrai problème auquel vous vous trouvez confronté et par lequel on doit commencer, ce n'est pas l'industrie même avant?
Agricole.
Ah ouais. Tout à fait. Parce que ce n'est pas ce qui est votre principal handicap. Marie Camara.
Voilà, moi je me rends compte, moi j'ai une table d'hôte, donc c'est les petits déjeuners qui sont ma grande spécialité. Ouais. Et j'aimerais bien mettre sur ma table ici à Saint-Louis, j'aimerais ne mettre que des thés et des cafés africains. Et c'est extrêmement compliqué. Voilà, j'ai découvert qu'il y avait du thé au Mali. Il y a toute une histoire du thé au Mali. Comment avoir du thé malien sur une table saint-louisienne? Ben, c'est pas simple du tout. Et donc, on repart bien dans toutes ces...
Surtout quand on entend, par exemple, une ineptie comme celle où Coco est obligé de commander du plantain à Londres, qui serait parti peut-être du Mexique,
de Colombie. Oui, bien sûr, parce que là-bas, il
vous ramenez sur le continent, alors qu'à Abidjan, quand vous allez au marché...
Exactement.
Il y en a partout. Il y a quelques femmes qui abandonnent même leur régime de plantain au marché parce qu'elles n'ont pas pu le vendre. Comment on fait pour créer cette filière-là?
Il y a aussi des problèmes de transport, de communication, mais il y a aussi des problèmes de terroir. En Afrique du Sud, c'est pas possible de trouver de la banane plantain sur place. Il y en a pas. Donc, s'il n'y a pas ces échanges commerciaux-là, et c'est ça qui fait le développement de l'agriculture. Sans échanges commerciaux, pourquoi est-ce que je vais aller planter de la banane plantain dans le nord de l'Afrique du Sud si je n'arrive pas à la vendre où que ce soit? Donc, pourquoi est-ce que je vais aller produire du manioc? Pourquoi est-ce que je vais aller produire si je n'arrive pas à le...
Est-ce qu'on peut alors développer cette cuisine-là si finalement les produits n'existent pas sur le marché?
Ben, écoute, moi je réponds à cette question en disant qu'il faut qu'on comprenne que ce n'est pas seulement le travail des chefs, quoi. C'est un travail d'équipe et qui a en tout cas demandé... Les gouvernants, la politique, il faut qu'il y ait une volonté politique déjà. Et il faut que les entrepreneurs aussi prennent le risque, croient en leurs produits et commencent à investir dans ce produit africain, de l'agriculture à la restauration, à tous les niveaux. Et c'est comme ça que ça va
donc,
changer.
Donc, il ne peut pas y avoir de développement de la cuisine africaine sans la volonté politique. On est d'accord là-dessus?
Absolument. Mais nous, les chefs, je crois qu'on peut influencer cette volonté-là. Je crois que c'est l'opportunité qu'on a avec ce forum, par exemple, quand les chefs vont se rencontrer.
Ici à Saint-Louis.
Et ça s'est fait. Ça s'est fait ailleurs. La cuisine nordique, par exemple, les chefs de Finlande, d'Islande et tout ça se sont réunis un bon matin. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils changent la façon de voir leur cuisine. Et ils ont décidé de focaliser sur le produit nordique. Et ce produit nordique, à cause de cette volonté des chefs-là, a influencé les gouvernants qui ont aussi commencé à s'investir dans l'agriculture locale et produits locaux. Et c'est comme ça que cette...
Oui, mais est-ce que vous êtes déjà organisé? Parce que là, c'est rare de voir...
Nous, on travaille déjà à Saint-Louis. Je suis arrivée au Sénégal spécialement pour ça, parce qu'on travaille avec un groupement de femmes saint-louisiennes. Et on développe aussi le concept Black Spoon ici à Dakar.
Donc, c'est quoi le concept?
C'est de la restauration rapide, en fait.
D'accord.
Et l'idée,
le fast-food africain.
Tout à fait. Et donc l'idée, c'est de travailler avec ces femmes-là sur les produits légumes et fruits, pour pouvoir les transformer derrière et les vendre directement dans notre restaurant. On commence déjà à notre petit niveau à mettre ça en place.
Ça marche.
On prend par exemple le bissap pour faire les jus, etc. On prend quelques légumes pour faire les plats. Donc on essaye de mettre en place petit à petit ces choses-là. Mais derrière, il faut créer des usines. C'est
Marie Camara.
Je pense aussi qu'il y a des choses qui sont dépendantes de notre culture. Pour qu'une filière fonctionne, il faut que tout le monde vive et que tout le monde vive bien. Et un petit paysan auquel on achète très très peu cher le produit de son travail, finalement, au bout d'un moment, s'il a une autre opportunité de diversification, il va le faire. Donc il faut un petit peu plus de redistribution et c'est une vraie réflexion.
On va parler business dans la seconde partie, on va parler des plats aussi, on va donner envie à ceux qui ont envie de manger. Mais on va parler business dans cette seconde partie parce que j'ai le sentiment que tout tourne normalement sur l'organisation du business culinaire africain. On va en parler dans la seconde partie du débat africain dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez avec nous, on va parler des choses qui donnent envie. À très vite.
Le débat africain. Alain Foucault.
Comment expliquer qu'avec une telle diversité, une telle variété, la cuisine africaine ait autant de mal à sortir de l'artisanal? Comment comprendre qu'avec de tels atouts, elle s'exporte si mal? Ces jeunes chefs totalement décomplexés qui désormais s'inscrivent dans une démarche plus business représentent-ils le renouveau? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain enregistré ce dimanche à Saint-Louis au Sénégal, en marge du forum de Saint-Louis qui a réuni ici de nombreux domaines d'activité pour discuter de la stratégie de développement du continent. Plusieurs invités sur ce plateau installés au comptoir du fleuve. D'abord, Coco Reinhardt, chef cuisinier et patron d'entreprise installé à Johannesburg en Afrique du Sud. Coco propose ses services dans de nombreux pays et dans un bon nombre de rencontres et cérémonies prestigieuses. Second invité, Pierre Thiam. Il est chef, lui aussi, installé à New York. Il a un parcours atypique puisqu'il est parti étudier la physique chimie. Il se retrouve aujourd'hui dans la restauration, travaillant dans la valorisation des produits africains qui de plus en plus rentrent dans des grosses distributions américaines. Notre troisième invité de ce plateau est une grande chef à Saint-Louis, avec une table, une adresse incontournable le matin notamment. Marie-Caroline Camara, la patronne de la maison et table d'hôte au fil du fleuve. Il faut préciser qu'elle était, jusqu'à une certaine date, la présidente de l'Office du tourisme de Saint-Louis. Une autre chef, une autre femme de caractère, défenseuse de charme des produits africains, Fatih Niang, à l'origine du premier food truck à proposer des saveurs africaines en région parisienne. Et ensuite, ça s'est étendu dans toute l'Europe. Fatih Niang investit désormais au Sénégal. Elle a décroché de nombreuses distinctions, dont celle de meilleur entrepreneur africain féminin 2014 en France. Catégorie African L. Elle est la patronne de Nomadia, de la graine à l'assiette. Et puis, Dieuvaille Malonga, notre cinquième invité, représente un peu la nouvelle génération des chefs africains totalement décomplexés, avec une démarche plus ouverte qui mélange subtilement tradition et modernité. Il se veut le pont entre saveurs d'Afrique et cuisine du monde, en gardant bien sûr l'héritage du terroir. Il officie en Allemagne, mais également dans plusieurs pays européens. Loïc Dablaise, lui, s'inscrit également dans cette vague de jeunes chefs qui promeuvent une vision contemporaine de la gastronomie africaine dans le monde. Son lieu d'expression est son restaurant Dapper, au cœur de Paris. Voilà pour nos invités. Alors, dans la première partie, nous avons évoqué un peu la situation de notre cuisine qui, de plus en plus, plaît, où les gens vont désormais au restaurant pour manger des plats dont les noms ne sont pas venus d'ailleurs, du guaguassou. J'aime bien le guaguassou, c'est étonnant. Surtout chez une amie d'Abidjan, le Bagnan, qui crée quand même pas mal au Bagnan. Hein. Mais la difficulté, vous l'évoquiez dans la première partie, était de trouver les produits, d'avoir les produits à disposition. On sait que dans la restauration occidentale, on va à Rungis, par exemple, à Paris, on a tout ce qu'on veut, on revient, on peut le mettre au micro-ondes et tout de suite, on est servi. Est-ce que votre vrai problème dans la cuisine africaine n'est pas celui-là, c'est-à-dire ne pas avoir de produits prêts à être cuisinés? Pierre Thiam.
Je suis tout à fait de votre avis. Je crois que c'est à tous les niveaux, quoi. Mais de mon côté, personnellement, je viens juste de lancer une ligne de produits aux États-Unis et c'est la vision, c'est exactement d'avoir ce genre de produits-là prêts pour le consommateur américain qui n'a pas le temps de faire la cuisine et qui ne connaît pas cette cuisine, mais on lui permet de découvrir certains produits. On a commencé par le fonio et on a développé une ligne de mix sur le fonio. Le fonio, c'est une ancienne graine que vous connaissez même peut-être pas. Pourtant, c'est l'une des graines les plus anciennes qui a été cultivée
absolument
en Afrique.
Absolument.
Et qui est très nutritive.
Que l'on trouve encore dans le Sahel et jusqu'au nord du Cameroun, un peu plus bas, ça n'existe plus. Yeah.
Voilà. Donc, pour en revenir à votre commentaire, c'est que nous avons développé une ligne de produits qui sont des mix, qui sont déjà faits, le fonio avec des mix à l'intérieur. Mm-hmm. Et le consommateur ira à Whole Foods ou à un supermarché américain et l'achètera et pourra le mettre dans son micro-ondes. Mm-hmm. Et c'est une façon de consommer et de pouvoir de valoriser nos produits.
Ça veut dire que le chef passe à l'industrie, là?
Oui, absolument.
Est-ce que ce n'est pas ce que vous devriez tous faire en réalité?
C'est obligatoire. C'est obligatoire, on est obligé de passer au niveau industriel parce que sinon les choses ne vont pas avancer. Il y a tout à faire en fait. On part de zéro. On est les ambassadeurs et on part de zéro. Donc,
un peu comme les Chinois sont partis il y a quelques années. Hein, parce que je me souviens au début de la décennie 80, les restaurants chinois, il n'y en avait pas tant que cela.
C'est ça.
C'est, au fait, ce n'est pas que l'industrialisation, okay, et c'est les méthodes de travail. Maintenant, nous, à notre niveau en tant que chef, on ne peut plus se permettre de faire des recettes qui sont... aujourd'hui, ma femme m'a un peu énervé, je mets plus de sel. Non, non. On doit passer, si on veut avoir un restaurant...
C'est une réalité. Hein.
Exactement.
Moi, j'ai eu un restaurant où le ndolé était bon un jour et moins bon le lendemain.
Maintenant, on est obligé de travailler de manière avec des fiches techniques.
Vous, les chefs, pas vraiment, des grands chefs, mais beaucoup de chefs africains sont réfractaires aux recettes écrites.
Mais exactement. Mais c'est parce que tout ça, c'est dans le passé. Oui. Maintenant, avec la nouvelle façon de voir, dans la nouvelle façon de voir, on est obligé d'être méthodique. On ne peut pas diriger une entreprise avec des humeurs.
Mm. Okay. Ou du feeling.
Du feeling. C'est à ça qu'on doit arriver, nous, en tant que chef, ok, et les industriels avant nous doivent faire que ce soit de la banane plantain qui va être vendue au kilo. Mmh. Pas aujourd'hui, la banane plantain, elle est vendue à autant le kilo. Demain, c'est comme ça. Mmh. Comment est-ce qu'on met le prix sur la carte? Chaque fois que vous venez manger au restaurant, vous... Aujourd'hui, vous ne pouvez pas manger à 500 francs, puis demain à 590, et puis voilà.
Je pense également qu'au-delà du défi industriel, je pense que le premier défi, il est d'abord autour de la formation. Parce qu'en fait, on va pouvoir développer des activités prospères à partir du moment où on a du personnel formé. Mais ça va plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, quand on se rend compte qu'on a des jeunes qui quittent leur pays pour aller chercher un espoir ailleurs, alors qu'on est capable...
En traversant l'enfer.
Exactement. On doit être capable de leur proposer des alternatives concrètes, en fait, sur le continent par rapport au business que nous, on crée et qu'on essaie de mettre en avant.
C'est-à-dire que vous, c'est aussi votre responsabilité. On ne veut pas chercher la responsabilité des États parce que tous les jours, on le dit, nos chefs sont très souvent carents. Est-ce que c'est pas aussi votre rôle, vous qui en avez fait votre passion et votre métier, de créer des centres de formation
tout
de plus
fait.
En plus pour la
tout
cuisine
fait.
Africaine.
Bien sûr, créer un centre de formation, c'est des gros investissements.
Lourd, hein. Oui, mais,
moi, je veux
mais
pas...
dans votre lieu même où vous travaillez.
Moi, ce que j'ai fait, par exemple, dans mes restaurants, je prends des stagiaires, ok, que je forme dès la base. Et je me suis mis comme objectif de prendre un homme, une femme. Okay, qui viennent, qui sont formés gratuitement, dont je supporte une partie des coûts. Okay. Mais on doit commencer quelque part.
Tout à fait.
Parce que là, Loïc met le doigt sur l'un des aspects les plus importants.
En fait, c'est un écosystème, c'est la formation. Il y a plein de choses à mettre autour de l'hôtellerie, la restauration. C'est beaucoup de sujets, en fait. Mm-hmm. Et la formation, ça en fait partie.
La formation en fait partie.
Voilà.
Elle est clé.
C'est essentiel.
Elle est clé.
Bien sûr.
Parce que dans ce domaine-là, le personnel, il reste quand même pas assez formé quand vous entrez dans ces restaurants-là.
Bien sûr. On n'a pas la même vision du métier.
Du métier. Marie Camara.
Je dirais que la formation, c'est aussi à tout niveau, y compris, nous, on est là, dans la vallée du fleuve Sénégal, dans une grande zone de maraîchage. C'est très important, alors que tout le monde se pose des questions en termes de sécurité alimentaire, en termes, on voit l'intérêt pour les produits bio. C'est très important que nos maraîchers, nos agriculteurs soient formés sur l'utilisation qu'ils font ou pas des pesticides, leur quantité, comment, etc. C'est de notre responsabilité dans nos différentes structures d'offrir des produits de qualité et d'avoir une certaine transparence. Et c'est vrai que les gens ont tous envie de bien faire, mais ces petits agriculteurs, ces petits maraîchers ont aussi besoin d'être accompagnés et de comprendre ce qu'ils font pour sortir un produit de qualité.
C'est ce qu'on appelle le terroir aussi. Donc, les supporter. Aujourd'hui, vous avez des grands restaurants français, okay, pour ne pas en nommer, qui mettent le producteur à l'avance. Vous ne mangez pas des petits pois, ce sont les petits pois de chez un tel.
Okay,
parce que, après, qu'est-ce que ça donne? Ça vous donne à vous, en tant que consommateur, vous allez faire la recherche, c'est qui, pourquoi ça. Pourquoi... Et c'est ça qui fait partie de l'éducation de tout le système.
Mais c'est aussi ça, la question de l'industrie. Quand vous mangez un ndolé, rarement ça vient de la même personne, par exemple.
C'est ça.
Vous allez vous battre au marché, vous ne savez pas d'où ça vient, comment ça a été confectionné, et qui l'a confectionné, dans quelles circonstances. Vous le mettez au restaurant, vous n'êtes finalement pas responsable de ce que vous servez, non? C'est-à-dire...
Non, on est très responsable.
On est toujours responsable.
On est très responsable.
Alors, vous êtes responsable sans avoir fabriqué.
Responsable
sans traçabilité.
Sans avoir la maîtrise, malheureusement.
Voilà, tout à fait. Il n'y a pas
oui,
de traçabilité.
Mais on doit, c'est quelque chose qu'on doit faire. On doit faire.
Moi, c'est pour ça que je dis que c'est une obligation de l'industrie et que vous devez peut-être vous mêler de ce qui est industriel.
Mais bien sûr qu'on le
parce
fait.
Parce que c'est vous qui emportez la responsabilité.
Bien sûr qu'on
Alain,
le fait.
Moi, j'ai une amie qui est à Abidjan. Elle s'appelle Kit. Elle est spécialisée dans la banane plantain. Elle est retournée en Côte d'Ivoire parce qu'elle est en train de créer une usine pour fabriquer ces bananes en Côte d'Ivoire et après les exporter au niveau national et à l'international.
Et à l'international.
Avec des normes françaises, etc. Donc, elle s'industrialise, elle est obligée, elle n'a pas le choix.
C'est un peu ça la démarche.
Et c'est une boîte de 1 kg avec des bananes plantains surgelées qu'on peut trouver en hypermarché et qu'on peut consommer.
Qu'on trouve de plus en plus ces derniers,
donc,
ces derniers
ça
temps.
Ça se fait, ça se fait, mais c'est... Je mettrai en relation.
Donc voilà, elle a un client, la Coco est. Coco est
voilà comment commence le business.
Voilà, c'est ça. Cette connexion, c'est le link, comme disent les Anglais.
En fait, le problème qu'on a aussi, c'est la connexion. On ne sait pas qui est où, qui fait quoi et où est-ce qu'on trouve où.
Marie Camara.
C'est très intéressant dans une maison d'hôte de voir, je crois qu'aujourd'hui un touriste il part à la recherche d'une émotion. Voilà. La cuisine, les saveurs font partie de son voyage. Hein. Et c'est très amusant dans une petite maison d'hôte d'avoir au petit déjeuner des clients sénégalais de passage et les hôtes. Et j'ai un plaisir énorme à voir le bonheur qu'ont les clients sénégalais à retrouver leurs souvenirs d'enfance et à en parler et à se sentir magnifié, on dit au Sénégal. Hein.
Donc, si on se résume, on dit une industrie, la formation, la vulgarisation des produits, hein, pour que tout marche ensemble. Alors, quand on fait la cuisine, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, la clientèle ne sera pas seulement africaine. C'est d'élargir. Comment élargir ça ailleurs? Vous qui voyagez, parce que tous ici à table, dans ce studio, je suis à table, vous voyez, je finis par me retrouver à table alors qu'il n'y a rien pour l'instant et que j'ai faim. Vous qui voyagez, comment séduire les papilles des autres? Est-ce qu'on y arrive?
Bien sûr, on y arrive par la promotion, la façon dont on va développer les plats. Et la promotion aussi passe par les autres qui ne sont pas de notre métier. Il y a quelques années, j'ai approché un grand événement international africain, où pendant la journée, ils faisaient des conférences sur l'avenir de l'Afrique, comment c'est bien, machin. Puis je me suis dit, modestement, je vais essayer de les approcher pour leur dire, il faudrait qu'il y ait des repas africains
merci,
qui partent.
Merci.
Je les ai approchés, puis ils m'ont dit, tu sais, on cherche quelque chose de raffiné.
Ils sont pas encore.
J'ai crié au scandale. Parce que c'est africain, ça peut pas être raffiné.
C'est pas raffiné.
Quelques années plus tard, j'ai commencé avec le African Leadership Network, faire ce genre d'activité. On a fait un super dîner de gala avec 5 services, des plats de différents pays. Comme par hasard, ceux qui m'avaient dit il y a quelques années que
c'est pas raffiné,
il y en a qui étaient là et qui m'ont dit, Coco, au fait, pour l'année prochaine, est-ce possible que tu nous
connais? Mais c'est ça.
Ouais, c'est une éducation. C'est ça. Les gens.
Parce que Coco, il s'est imposé.
Cuisine africaine.
Coco, lui, s'est imposé, mais il va falloir peut-être que ce ne soit pas seulement Coco qui
se passe. Ah non, il y en a beaucoup qui se passent.
Il faut que les choses se passent. Je vois Dieu veille, qu'est-ce qui parle.
Il y a Pierre et tout ça.
Il y a une génération qui est sans complexe.
C'est la bonne.
Alors, quel est le plat qui marche le mieux et que vous avez transformé et comment? Je veux commencer un peu par Dieu veille sur ce coup-là.
Alors moi, mon identité culinaire est un peu différente parce que ce que je fais dans une assiette, on peut trouver jusqu'à 25 pays. Donc je prends les ingrédients qui sont dans plusieurs pays et je fusionne dans un plat. Et je l'appelle Afrofusion.
Voilà, Afrofusion, ça marche bien?
Ça marche très bien, ça marche très bien. Parce que c'est un pont culinaire entre l'Afrique et le saveur du monde.
Et c'est à base de quoi?
C'est à base des produits purs africains. Et avec la technologie qu'on a aujourd'hui, les matériels et les nouvelles technique qu'on a pris en Europe, donc du coup on
essaie ça aussi. Si j'ai envie de venir goûter chez Dieu veille Malonga, j'irai où? Parce que Dieu veille voyage tout le temps et ça reste quand même assez élitiste.
J'ai un restaurant privé à la place du Palais Bourbon à Paris, mais sinon on me trouve au Cameroun, à Boya et
au Cameroun. C'est inattendu, hein. Qui est dans la zone anglophone et qui est une très belle ville.
Et au Kenya, au Rwanda et bientôt au Ghana.
Où est-ce qu'on peut trouver ce que je fais? Cette cuisine-là, le nom, je ne sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se base sur les entrailles de cette cuisine. Sur ces entrailles, en fait. Ce qu'elle est vraiment, véritablement, avant la colonisation, il y a 100 ans, il y a 200 ans, on se base là-dessus pour créer quelque chose. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. C'est en connaissant l'ADN qu'on peut faire quelque chose d'intéressant.
D'accord. Si je viens chez vous, qu'est-ce que je commande en premier?
Ça dépend des positionnements. Par exemple, on ouvre à Casablanca, dans le quartier Gautier, dans un mois. Et là-bas, il y aura des plats plus bistrot. Donc, on va effleurer cette gastronomie pour proposer quelque chose aux Marocains. Mais à Abidjan, par exemple, on va revisiter un pépé soupe, par exemple. On va revisiter un garba.
Voilà, un garba. Il faut dire ce que c'est le garba, parce qu'ils ne savent pas, pourtant ils en mangent.
Le garba, c'est le plat du peuple. C'est de la tchéké avec du thon frit, des tomates, des oignons et du piment. Et une huile sale, bien malheureusement. Faites attention à lui.
Une huile sale.
Mais c'est vrai, mais c'est comme ça.
C'est quoi une huile sale?
C'est quoi une huile sale? Une huile usée et qui malheureusement apporte le goût.
Qu'il faut,
on ne peut pas promouvoir ça, mais le peuple se nourrit de ça aujourd'hui, c'est une réalité.
Est-ce que votre garba ressemble à celui de Trècheville, à ce qu'on mange?
Non, moi je l'ai modernisé. Mais on ne peut pas, ça appartient au peuple.
Avant de revenir à Coco, avant de revenir à tes plats qui sont devenus très très célèbres, j'ai envie de me tourner vers Fatih qui, elle, a eu son food truck. Quand je viens pour manger au food truck, quelque chose de rapide, c'est quoi?
Ah, rapidement, nous, ce qui vient en priorité, c'est l'odeur de la banane plantain qui est en train de frire dans les friteuses. Là. Donc ça, vraiment, ça les attire.
Là, Olivier Raoul en transpire. Parce que
c'est les bananes plantains. Vraiment, c'est notre produit phare, les bananes plantains.
On mange avec quoi, ces bananes plantains?
Nous, c'est à picorer. C'est frit, donc c'est à picorer. Des fois, les gens, ils l'accompagnent avec une petite salade.
Et le full spoon, on mange quoi là-dedans?
Le black spoon, de l'entrée au dessert, c'est africain. Mm-hmm. Donc, on a des pastels, des fataya, thon. Mm-hmm. On a les plats, on a trois plats, mafé, poulet yassa, tchéboudien. On a le dégué en dessert, on a les jus locaux, on a les cafés, les thés africains. Voilà, on propose
en plusieurs
tout ça.
Étapes, l'été aussi, comme on fait dans le désert.
Comme
le
je travaille fort, avec Moriba, donc il est très créatif. Donc il a des capsules de café Touba, de café gingembre, une création. Des thés Kenkiliba avec le petit sachet, très moderne.
Qui a une vertu tout à fait. Homéopathique.
Tout à fait, le Kenkiliba, ça nettoie le ventre.
Voilà. Ça nettoie l'estomac. Nous, on dit le ventre pour tout le monde.
Donc moi, je m'appuie vraiment des chefs. Moi, je suis plutôt entrepreneur, mais je m'appuie beaucoup, beaucoup des chefs. Par exemple, sur les prochains restaurants Black Spoon, on va travailler avec peut-être des chefs qui est présent aujourd'hui pour établir le menu. Tout à fait. Donc, voilà.
Alors Pierre, si on veut manger quelque chose de bien à New York...
Écoutez, moi, c'est plutôt... Je m'inspire de la cuisine traditionnelle, comme pratiquement tous mes collègues ici. Contrairement à Diovel qui fait une fusion... Moi, je m'inspire vraiment d'un plat traditionnel et je le déconstruis pour le revisiter et le présenter à une façon plus contemporaine.
Donnez-moi envie de venir manger avec vous.
Si vous venez, peut-être en entrée, vous aurez des croquettes de fognon, par exemple. Les croquettes de fognon sont un peu inspirées de la base, c'est du tchéboudienne, en fait. C'est la base du tchéboudienne, la sauce, le fognon est cuit dans cette base-là. Donc, ça a les saveurs du tchéboudienne. Et c'est fourré à ce qu'on appelle le rof. Donc, c'est le rof, c'est du persil pimenté avec un peu d'ail et tout. Donc, on fourre les croquettes avec ça et on les cuit au chalumeau. Donc, c'est plus le traditionnel, mais les cuire au chalumeau, ça amène cette croûte.
Carrément au chalumeau.
Carrément, oui. Et ça amène cette croûte-là, ce qu'on appelle le rogne au Sénégal. Donc, ça ramène cette saveur-là. Donc, cela, je les sers avec une sauce à base de tamarin, donc, parce que le tamarin aussi, ça vient dans ce plat. Donc la sauce est à base de tamarin, mais c'est juste un coulis de tamarin qui vient avec ça. Quoi.
Marie Camara. C'est une maison d'hôte, alors je vais dire un mot sur juste le petit déjeuner.
Qui se situe à Saint-Louis,
qui s'appelle Au fil du fleuve. Et ce que les gens préfèrent en ce moment au petit déjeuner, c'est un muesli, qu'on a appelé un muesli du Sahel, Sahelian muesli, parce que les gens voient bien sur les marchés, partout, tous les gens... trouver, acheter du baobab, des jujubes, plein de petits nutriments qui enrichissent notre vie quotidienne. Mais c'est pas facile d'aller grignoter toutes ces petites choses. Donc finalement, on a préparé un muesli dans lequel on a mélangé du cajou, des arachides, du ndir, des jujubes, des solomes qui sont un peu le tamarin.
C'est quand qu'on y va?
Et on a fait ce petit muesli.
Je sens que t'as quelqu'un qui viendra demain, Marie Camara. Alors Coco, en Afrique du Sud, vous nous gâtez vraiment. Hein, on était très très contents quand on est venu à Johannesburg.
Merci. Merci.
Donnez-nous envie, juste pour terminer.
Moi, je pars vraiment sur la cuisine, un peu comme Pierre, où je revisite un plat traditionnel. Mmh. Ok, là par exemple, on a fait un pépé soupe avec une purée de bananes plantain. Oh, voilà. Mais c'est la façon de le dresser.
C'est une expérience.
Exactement.
C'est une expérience. Tout ceci vous proposez de nouvelles expériences.
Exactement.
Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Il en faudrait beaucoup d'autres. Hein, il en faudrait beaucoup d'autres pour qu'on en parle. J'espère qu'on a donné envie. Merci à vous. Merci d'avoir
participé.
Plus bon courage. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Delphine Michaud, Affamé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. À très vite. Restez à l'écoute de Radio France Internationale.